elle, moi j'ai l'impression la philosophie est absolument démunie et ne peut rien dire. Et moi je pense que si les philosophes ont tellement envie de parler de la poésie, c'est parce qu'ils sont trop jaloux de la liberté qu'on a de pouvoir sortir du rapport entre la fumée et une couleur qui passe, tout ça retroussé par la forme qui les fait intervenir dans un rapport inédit. Ils ont la langue qui pende et ils disent « Ah ben non, alors on va vous expliquer pourquoi vous faites ça. » Et à mon avis, il ne faut pas les écouter.
Mais si tu dis ça, tu es bien en train de dire que le poème produit un type de pensée.
Oui, peut-être, peut-être qu'on a, que c'est ce qu'on appelle l'image, en fait, ou des choses comme ça.
C'est quand même des sensations dans les deux cas.
Oui, mais je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que vous dites. C'est-à-dire, si la philosophie est jalouse de ça, alors qu'elle fait de la pensée son élément... C'est précisément parce qu'elle voit dans un usage du langage, et c'est ce que tu rappelais, c'est-à-dire c'est différent si les danseurs dansent en dossard et s'ils dansent avec des dossards syllabaires. S'il y a des syllabes sur les... C'est précisément parce qu'il y a... Alors on va dire quelque chose d'évident, je pense. S'il y a dans l'expérience langage... S'il y a dans le rapport, pardon, expérience langage, quelque chose de spécifique au poème, c'est précisément ce rapport spécifique que le philosophe a l'impression de manquer. Et c'est pour ça qu'il court derrière le poète. Mais il a aussi l'impression par là même que se dégage du poème, et parfois au corps défendant du poète lui-même, parce que combien sont les poètes qui ont dit « Moi, quand les philosophes me lisent, je ne comprends rien de ce qu'ils disent, je ne me reconnais pas, ça a l'air très bien ce qu'ils disent, mais je ne sais pas de qui ils parlent. » C'est précisément parce que les philosophes voient dans ce rapport sensation-image-langage, hein, pour aller dans ton sens, hein, et le sens de Claude, quelque chose qui est assez singulier pour faire... Alors, je sais que tu travailles là-dessus en ce moment, pour faire un événement de pensée, c'est-à-dire pour faire quelque chose qui change le rapport à la pensée. Et ce débat, on peut dire qu'on l'a depuis les romantiques, parce que les romantiques eux-mêmes avaient cette conviction que dans le rapport expérience-langage-pensée, il se joue quelque chose qui déborde par-dessus, par-dessous, par la droite, par la gauche, hein, le rapport philosophique à la pensée. Liliane ?
Tout à l'heure, tu as dit quelque chose et je pensais à la phrase qui n'est pas d'un poète, mais bon, qui peut être pour moi mis au même rang que l'idée du poème ou du poète, c'est travailler l'échec ou rater mieux. Et ça, je ne sais pas si, par exemple, dans le domaine purement philosophique, ces questions se sont posées. Or, elles se posent de manière frontale et, je dirais, radicale dans la pratique du poème, mais elle ne se pose pas en tant que... pas uniquement quand on écrit, mais quand on lit de la poésie aussi. Parce que c'est pour ça qu'on se dit... Pourquoi on dit tout le temps que c'est difficile, la poésie ? Alors, on voudrait que ce soit... On trouve normal que... Je sais pas, qu'un livre de musique... si on n'a pas appris à le lire, on n'arrive pas à le lire. Mais parce que c'est la langue partagée par tout le monde, qui est, avec l'alphabet partagé par tout le monde, qui est dans le poème. Parce que je pense qu'il y a à l'intérieur du poème une... Peut-être, je ne sais pas si c'est une pensée, mais c'est quelque chose qui prendrait en compte cette idée d'un échec autrement, et qui concerne aussi la lecture du poème. Et c'est là où écrire et lire sont des actes très proches et qui sont inséparables. Parce que ça travaille quelque chose de l'ordre d'un échec et qui se reprend. Moi, par exemple, je relis actuellement des textes de Verlaine que j'ai lus il y a longtemps, que je croyais connaître. Et tout d'un coup, je m'aperçois que je ne les avais pas lus. Parce que je les lis dans une fraîcheur neuve, avec une méconnaissance totale qui est de l'ordre du miraculeux. Mais peut-être que si on relit Spinoza, on peut avoir le même effet, quoi. Donc il y a quelque chose c'est pas l'impossibilité, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me gênent aussi dans tout ça. Travailler l'échec, je pense que ça, c'est quelque chose... Ça rejoint aussi un travail prolétaire. Et c'est en ça qu'il y a ce sont des actions du corps qui concernent tous, par la lecture ou par la pratique, qui, moi, m'intéressent. Et si quelque chose avait à voir avec la pensée, qu'elle soit avec un ou avec un A, c'est plutôt dans cet ordre-là, ce registre d'être vivant, enfin de partager, d'être là. Pourquoi on n'est pas mort? Pourquoi on est vivant? Et qu'est-ce qu'on fait avec cette langue? C'est plutôt ça, moi, qui me trouble en ce moment.
Pierre, tu veux...
Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Liliane. J'ai rien de... Non, je...
Ça veut pas dire, excuse-moi, ça veut pas dire qu'il y a que les problèmes de forme, de technique, ne soient pas radicalement nécessaires à comprendre et qu'elles se posent pas de manière, parce que c'est comme, il faut y aller au boulot, il faut écrire. C'est comme si quelqu'un qui fait une tranchée ou qui va peindre un mur, il faut qu'il s'équipe, il faut qu'il le fasse. Et c'est aussi dans cette action qui a l'air compliquée, mais qui est relativement simple. Et lire aussi, se trouver confronté à une page à lire, ça relève de la même activité où tout le corps et la pensée interviennent et où on est tous réunis, en fait. Et c'est comme manger, comme des choses qui sont aussi importantes, ou dormir. Moi, j'aime bien cette simplification un peu du quotidien et de la vie par rapport à l'acte d'écrire.
Oui, en disant que je suis à la fois entièrement d'accord avec toi, tu sais, hein, dans le quotidien, dans cette idée du quotidien, du concret, du corps surtout. C'est pour ça que j'ai dit organique tout à l'heure, parce que je ne pense pas qu'on puisse justement séparer la pensée, mais y compris philosophique, du corps, de son incarnation. Mais alors la poétique, encore pire, si tant est que le poème, c'est du corps, c'est un travail du corps, qui se remet d'ailleurs encore, parce que tu as évoqué la mise en scène, et effectivement, j'ai eu la chance, bon, j'ai écrit pour le théâtre, vous le savez aussi, j'ai eu la chance d'être jouée en scène nationale, d'être dite par des très grands comédiens, et j'ai beaucoup appris d'eux. Et j'ai appris d'eux que la première chose, surtout quand ils formaient, et c'est là où je vais revenir à la pensée, lorsqu'ils formaient notamment des professeurs, et ils ont beaucoup formé les professeurs et professeurs du supérieur au dire du poème. La plupart de leurs remarques étaient que leur approche intellectuelle du poème, leur approche, explication de texte, etc., oubliait une chose fondamentale, c'est que ça sortait d'un corps et qu'il s'agissait de le re-rentrer dans un corps. Et ils commençaient par les faire, je l'ai vu faire par des grands comédiens, c'est-à-dire les faire remettre le texte encore. Cela dit, ils sont abominables. Hein. Ils m'ont fait travailler, moi, dans mon dire du texte. Autant dire qu'au bout de 3 phrases, je prenais 2 claques. Dis de 2 choses, tu as un texte devant toi, tu ne le respectes pas, ou le poète est mauvais, tu le fous à la poubelle, ou alors tu respectes ce qui est écrit. C'est-à-dire que c'était d'une rigueur extrême, mais d'une autre nature, disons cette nature de la mise en corps. Après, en revanche, peut-être, j'aime beaucoup la phrase de Beckett. Essayer, rater, rater mieux. Bon, j'adore. Bon, c'est celle-là à laquelle tu faisais allusion. L'idée de rater mieux. Mais peut-être que le mot échec, c'est pas celui que j'emploierais. Pour simplement lancer le débat. J'emploierais pas le mot échec. J'emploierais le mot essai, effectivement. J'emploierais le mot bricolage, qu'emploie Lévi-Strauss. J'emploierais le mot quelque chose. Pourquoi échec? Par rapport à quoi? Par rapport à quel dû dois-je m'acquitter? Quelle notion de réussite? Je ne vais pas filer sur la gambène, mais passons. Quelle notion de réussite? Voyez, de réussite, il y a là. Je suis plus simple, moi, sur le poème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il marche ou il ne marche pas? Il marche ou il ne marche pas? La première juge, c'est moi. Bon. Qui peut se tromper absolument. Et j'ai bien dit, par marcher, on retrouve la machine dont tu parlais, mais aussi marcher, ça marche, ça avance. Bon, et donc, et puis non seulement ça marche sur moi, c'est très bien, enfin du moins moi je considère qu'il marche, mais est-ce que ça marche ailleurs? Est-ce que ça marche avec d'autres? Alors parfois ça marche immédiatement, parfois ça marche avec beaucoup de retard, parce qu'il y a beaucoup de poètes qui à leur époque n'en sont lus qu'après, enfin on ne sait rien, il y a toutes les figures, hein. Pas être connu de leur coin, voilà, il y a toutes les figures dans la poésie. Mais à un moment donné, si ça ne marche pas, c'est-à-dire si ça n'avance pas en quelqu'un et ne le fait pas lui-même avancer, et c'est fini, le poème n'existe plus. Donc c'est pour ça que j'ai pris le mot peut-être avancer, mouvement, dynamique, comme étant pour moi, ayant affaire métaphoriquement, effectivement, à la pensée. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier le corps. Et là, je suis entièrement d'accord avec... On commence par être un corps. D'accord. Voilà, encore. Voilà. On ne va pas faire le encore de Lacan, hein, mais bon, voilà. Mais dans le corps et dans des corps. Ça a affaire à vos corps. Après tout, si j'écris, j'ai affaire à des... Je pars d'un... De... Enfin, je pars, non. Ça se passe dans mon corps. Ça se passe dans mon corps. Et que se passe-t-il dans vos corps? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? C'est là l'enjeu, me semble-t-il.
Moi, je voudrais réagir sur cette question de l'échec. Parce que j'ai l'impression qu'il y a... En tout cas, c'est la manière dont moi je le vis. Tu parlais de Verlaine. Je trouve que c'est vraiment frappant la manière dont on voit la différence entre comment on peut recevoir des poètes, disons, classiques, disons, avant Mallarmé, disons, et qu'on arrive à peu près à savoir comment il faut les lire, qu'est-ce que c'est un poème réussi, et lesquels parmi ces poètes-là, disons, on pourrait dire, sont de grands poètes, sont de grands penseurs. C'est-à-dire que c'est comme si... Il y avait une espèce de jeu partagé dont tout le monde connaît les règles et le récepteur, celui qui lit, il sait aussi jouer le jeu et il peut aussi, du coup, recevoir le poème comme il lui était destiné. Et il me semble que dans la poésie, disons, moderne, contemporaine, ou depuis 100 ans, disons, c'est comme si on avait cassé le jeu et on ne sait jamais, a priori, quel est le jeu que joue l'auteur quand on est soi-même lecteur. Et du coup, ça pose une question qui est à la fois très simple et un petit peu vertigineuse, c'est que je ne saurais pas dire sur quel poète moderne on peut se mettre d'accord et pour dire, bah voilà, lui, il a réussi, c'est un grand poète, il a fait des œuvres qui valent. Et je me disais, est-ce qu'on ne peut pas dire ça, par exemple, je ne sais pas, de Rilke ou de Celan et... Mais moi, je ne sais pas comment lire un poème de Celan ou un poème de Rilke, je reste démuni et c'est l'enjeu d'une lecture qui est elle-même un travail et qui est difficile, et ce qui n'est pas du tout le cas quand je dois lire, je ne sais pas, du Verlaine. Et donc, par rapport à cette question de l'échec, j'ai l'impression que si la poésie contemporaine, elle est difficile à recevoir aussi, je veux dire, on ne peut pas simplement en blâmer les lecteurs ou l'industrie ou le monde du spectacle ou le fait qu'il n'y ait pas assez de poètes qui passent à France Télévisions. C'est que aussi le jeu auquel on joue, il est super bizarre, et c'est comme s'il était l'enjeu même en fait de chaque tentative de retrouver un jeu possible à chaque fois. Et c'est forcément impossible à recevoir de manière, en tout cas de manière évidente pour un lecteur normal. Alors.
Non, je suis pas persuadée. Je crois que sous Verlaine, Rimbaud, il y avait le poète officiel, c'était Copé, qui le lit aujourd'hui. Donc c'est aussi difficile de lire ses contemporains, mais c'est pas nouveau, je crois pas. À part ce qu'il y a tout un appareillage éditorial avec des outils, qui sont aussi des formes de pouvoir. Puisque le pouvoir se redistribue dans une économie, je veux dire, c'est en ça que c'est pas innocent. Moi, ce que je trouve bien, c'est qui sont les éditeurs qui sont là, par rapport à une histoire de l'édition. Et là, en arrivant, je redoute un peu, parce que moi, je ne viens plus depuis très longtemps, parce que ça m'a rappelé un peu les kermesses chez les Bonnes Sœurs à Avignon. Il y avait quelque chose qui me foutait l'angoisse, mais vraiment... c'est comme ça. Là, je suis contente d'être revenue. Je suis tombée, mais enfin, c'est-à-dire que je n'y reviens pas si simplement. Mais quand même, la petite édition par rapport à ce qui va se passer avec un Bolloré aujourd'hui, par rapport à l'histoire du livre et au prix du papier, par rapport à une économie générale, ça, c'est des questions sérieuses sur lesquelles peut-être on peut s'interroger plutôt et se demander qu'est-ce qui fait que maintenant tel jeune poète monte. Parce qu'il intervient là, parce qu'il a telle revue, parce qu'il fait ça, parce qu'il il occupe tel enjeu de pouvoir avec des... comment on dit quand on est un prescripteur, ça se dit... Et là, il y avait un rapport, moi, je trouve ce qui m'a toujours frappé, c'est les rapports entre la poésie et la publicité. Et ça remonte à Death Note, c'est pas nouveau jusqu'à aujourd'hui. Donc, les poètes aussi, c'est quand même pas des innocents. C'est pas des... Enfin, au sens... je pense qu'il y a des stratégies à mener, je pense qu'il y a des combats à mener. Depuis les dadaïstes, on a eu quand même des leçons d'intervention. Les revues, la petite édition, tout ça, ce sont des outils absolument nécessaires aujourd'hui et qui vont... Parce que, bon, j'entends dire actuellement, tous ceux qui vendent beaucoup, pas en poésie, hein, le roman, l'essai, on vend moins de livres. Ben, bizarrement, pas en poésie, parce que justement, les tirages à 150 exemplaires, ils risquent pas lourd au niveau de l'économie. Surtout quand ils ont des éditeurs qui, j'allais dire, pour parler très grossièrement comme à Marseille, se lèvent le cul pour venir ici charrier des cartons avec les revues, c'est pareil. Hein. Il y a tout un travail d'une forme de résistance parallèle qui quand même concerne la poésie et qu'on retrouve pas beaucoup, ni dans le roman, ni dans l'essai. Ni dans... Donc il y a un champ curieux qui est où le poème finalement prend un terreau, on pourrait dire, et s'alimente. Et ça, c'est plutôt réconfortant. Voilà. Donc je parlais de l'échec, mais il y a quand même une tradition de résistance dans le travail de la poésie qui ne passe pas que par ce qu'on écrit, mais par la circulation des livres de poésie. Et aussi, peut-être des petits films maintenant, enfin, de tous les outils à disposition, Internet, puisque je vois ta revue Catastrophe,
c'est un blog voilà. Gratuit.
Voilà, donc c'est un outil c'est pour les gens absolue. De ma génération relativement neuf. Tu vois, donc tout ça, je pense que c'est intéressant aussi d'interroger tout ça, puisqu'aujourd'hui on est dans une action, là c'est une action ce truc, ici. Global, avec des participants qui ne sont pas que des poètes, mais qui font que ben, les poètes, s'ils existent, c'est parce qu'il y a la petite édition, il y a l'édition, il y a les revues, et... Enfin, tout ça me semble important, et je voudrais rendre hommage aussi à ces travailleurs-là qui sont... dont on parle beaucoup moins, quoi, parce qu'on est toujours quand même dans une position un peu romantique actuellement. En fait, les poètes, les plus jeunes, moi je rencontre des poètes, ça me fait rigoler. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la Pléiade de leur vivant. C'est à mourir de rire, quand même. D'autant plus qu'il paraît que les Pléiades se vendent plus. Ça, je le sais. Via Gallimard. Les Pléiades ne se vendent plus. Alors, qu'est-ce que ça va devenir, avoir sa Pléiade de son vivant ? Ça veut dire quoi ? Ben, la pratique de la poésie, ça mène à poser aussi des questions aussi politiques que ça, aujourd'hui.
Ben, si je peux réagir... j'aime bien creuser nos différences parfois, ben parce qu'on est en débat, mais alors là je peux que l'approuver. Je peux pas trouver, vous voyez, de te dire non. Bon, tout simplement parce que je pense que si on est dans la pensée du poème, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du politique, une dimension politique à cette pensée, sinon on est hors sol, on est hors réalité. Bon, alors il y a eu un numéro de la revue Cité qui était sur le poème et la cité, où il y avait d'ailleurs deux contributions de poètes, hein, il y avait beaucoup de contributions de philosophes, et il y a deux poètes qui avaient été sollicités. C'était Michel Deguy, qui a fait quelque chose sur l'écologie du poème, c'était extrêmement intéressant, et puis j'ai été sollicité et j'avais fait un texte qui s'appelait Effraction, diffraction, mouvement. Alors, vous voyez, effraction, j'y reviens tout le temps. Effraction, diffraction, mouvement, je ne vais pas vous infliger ça, loin de là, ce n'est pas la question. Mais ça posait bien cette question de la circulation du poème dans la cité, de son statut et aussi des représentations. C'est-à-dire que moi, je pense que quand on dit le poème aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, les règles du jeu du poème ne sont pas aussi nettes qu'elles... Aujourd'hui, elles semblent brouillées dans la mesure où chaque poète invente sa poétique ou crée sa poétique en même temps qu'il écrit. Mais en revanche, je suis d'accord aussi avec Liliane, c'était pareil, c'était identique au moment de Verlaine, c'était Copé qui était... Et rappelez-vous, c'était pas Racine qui était considéré comme le meilleur, c'était Proudhon. Alors, donc vous connaissez plus le nom, hein, quant au plus grand romancier du XIXe siècle, c'était Gustave Méry. C'était pas Balzac, c'était pas Flaubert, c'était un dénommé Gustave Méry. Il y avait d'ailleurs, et donc, je veux dire, si on parle en termes de vente, donc cette question, elle est toujours présente, et elle est présente à deux niveaux. Je voudrais répondre à deux choses brièvement. Un, la difficulté du poème. Écoutez, moi, il y a une chose que je disais parfois à mes étudiants. Personne ne s'étonne, quand on rencontre quelqu'un et qu'on le voit 10 minutes, de ne pas le connaître de fond en comble, et même une vie entière ne suffit pas à nous connaître nous-mêmes. Personne ne s'étonne de faire une traversée d'une ville et de dire après je la connais. Pourquoi s'étonne-t-on que les œuvres humaines demandent du temps et de l'attention pour les traverser ? Les êtres humains, il y a moi quelque chose, mais peut-être je suis stupide, hein, mais il y a là quelque chose qui m'a toujours effaré. Je vois pas pourquoi le poème devait, les œuvres humaines devraient se donner dans une espèce de transparence que nous ne possédons pas nous-mêmes, parce que je suis pas transparente. Voilà. Donc il me semble pas que le poème. Alors. On peut aborder une question à laquelle tu fais bien clair, peut-être allusion, Pierre, qui est l'hermétisme qui a caractérisé le poème pendant tout un temps au XXe siècle. Ça n'a jamais été mon esthétique, c'est-à-dire le post-malarméisme, si on veut être bon. Ça, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas produit du poétique. Bon. Mais je ne suis pas si sûr que ceux qui nous écoutent que les gens, entre guillemets, en tout cas j'ai eu beaucoup de surprises, très souvent en lisant, les gens, dont je suis un genre, hein, moi aussi, c'est-à-dire nous, les gens, est obligatoirement une difficulté à l'égard du poème. Et si je peux me permettre une anecdote qui vous fera sourire, je me souviens simplement d'à Marseille, c'était à l'époque où j'étais à Marseille, j'étais professeur à Marseille, et je suis passé sur une radio locale au moment du printemps des poètes. Bon, il voulait bien que je parle de cuisine, de mes courses, des chaussettes que j'achetais, mais surtout pas de poème. Surtout pas que je lise un poème. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient certains que ça ferait fuir la totalité des lecteurs. Et il s'est passé quelque chose en me demandant de lire simple, et surtout que ça soit simple. Bon, j'ai pris un de mes textes, simple, je ne sais pas ce que ça veut dire. La simplicité est aussi différente du simplisme que la complexité de la complication. Alors j'ai essayé de faire de simples choses simples et complexes, mais pas compliquées. Bon, et il y a eu à ce moment-là, c'est seulement ça que je voudrais dire, quelqu'un qui a téléphoné, qui avait, alors évidemment, terreur, inquiétude de celui qui m'interviewait, en disant, ciel, qu'est-ce qu'on va entendre ? Et c'était quelqu'un qui travaillait dans les cuves à Fos, qui grattait, qui nettoyait les cuves de mazout à Fos, un ouvrement, et qui a répondu avec un accent marseillais à couper au couteau, que je ne vous referai pas, mais qui n'était pas parce que je ne le ferai pas bien. J'ai un accent du Midi, mais pas de Marseille. Et qui, à un moment donné, a dit, eh « Ça m'intéresse, là, votre poète. J'aime bien, moi. Mon poète préféré, c'est Mallarmé. » Et si vous voulez, il s'est passé quelque chose. Je ne vous parle pas de ce qu'il disait, de ce que je disais moi-même. Il m'a dit, « Moi, mon poète préféré, c'est Mallarmé. » Et ce qu'il y a, c'est que, un positionnement politique qui refuse la culture populaire mais crée une culture de masse. Bon, on ne va pas aller des heures là-dessus. Mais part d'un a priori sur les gens. D'un a priori qui est que cet homme-là devait être pour aimer Hugo ou Prévert ou je ne sais qui. Bon, ouais, ce qui veut pas, ne diminue en rien Hugo ou Prévert, ça n'a rien à voir. Mais il y a une poésie qui était soi-disant, ben non, il aimait Mallarmé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, et il en parlait. Il a continué à faire un commentaire dont je n'ai pas développé ici, qui montrait cet homme aimé, avait rencontré Mallarmé d'abord, puis la poésie, et l'a dit. Et si vous voulez, cette aventure-là, c'est une seule anecdote, mais elle m'est arrivée, et elle t'est arrivée aussi des dizaines de fois, je pense, quand tu as lu en public. Enfin, tu verras, hein, mais moi, elle m'est arrivée souvent, d'avoir... Voilà, d'avoir ce type. Donc je n'aime pas trop, je finis simplement par ça, je n'aime pas trop les préjugés sur ce qu'un public est supposé comprendre ou il est supposé prendre possession.
Moi, au risque de faire l'avocat du diable, je crois qu'il faut faire droit à cette impression que des gens qui ne sont pas spécialement habitués à la poésie ont. Parce que, je ne sais pas, quand ils regardent un film, ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils ont l'impression de comprendre le film, ou plein de films. Alors peut-être je peux parler plus individuellement. Moi, quand je regarde la plupart des films que je regarde, j'ai l'impression d'avoir un accès à eux qui ne me demande pas spécialement d'avoir une activité comme ça, méta, de réflexion sur le film. Je peux le regarder au premier degré. Alors que quand je lis la plupart des poèmes que je lis, j'ai besoin de cette activité parce que je suis comme une poule devant un couteau. Et je pense qu'on ne peut pas simplement dire aux gens de la même manière qu'on ne connaît pas une ville en 5 minutes, il faut prendre le... Je pense qu'il faut faire droit à cette espèce de répugnance qui est produite par la... que le poème sécrète et qui, à mon avis, existe quand même. Et que si on la nie ou que si on l'attribue à la culture de masse ou au fait que les médias ne parlent pas assez de nous, etc., à mon avis, on loupe
pratiques culturelles.
On loupe une âpreté qui est, qui est quand même peut-être pas essentielle, mais qui est statistiquement souvent présente.
Bien, je crois que les amis du marché nous disent qu'il faut que nous arrêtions là. Il n'était pas du tout garanti que la pensée du poème entraînerait des consensus, ni qu'elle entraînerait un dissensus. Mais comme vous avez vu, la question est vive et désormais, elle vous est retournée. Merci à Claude Bert, merci à Liliane Giraudon.
Merci beaucoup.
Et merci à Pierre Vinclair.
Merci Martin.
On aurait bien voulu effectivement poursuivre et échanger avec le public, mais malheureusement, j'ai un planning de la scène qui ne va pas permettre cet échange. Dans quelques minutes, le temps de remettre un petit peu d'ordre sur la scène. Dans quelques minutes, nous allons nous retrouver autour du Luxembourg, pays invité du marché de la poésie. Une rencontre informelle avec Ulrike Bay, Tom Nys et Florent Toniello et Sébastien Tilgueux comme températeur. Le temps de remettre un petit peu d'ordre. Merci.
Thank you. Ah, ça stoppe que ça, non, encore.
Eh bien, nous allons poursuivre nos rencontres pour connaître la poésie du Luxembourg d'une façon un peu plus précise. Donc, nous avons avec nous Ulrike Bay, Tom Nies, Florent Toniello, et le températeur de cette rencontre est Sébastien Tilje. Je lui laisse la parole après une gorgée.
Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette avant-dernière rencontre avec des auteurs et des autrices luxembourgeois. Je dis avant-dernière parce que ce soir il y aura une dernière rencontre avec des jeunes voix de la poésie luxembourgeoise animée par Florent Toniello. Oui, alors sans aucune autre introduction, j'ai le plaisir de vous présenter Ulrike Bay. Bonjour. Tu es né en 1960 à